passé de 7 minutes sur Radio Campus Tours. Et oui, chers auditeurs, cela arrive même au meilleur d'être un peu en retard. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui, une nouvelle émission avec les étudiants relais santé. Alors aujourd'hui, nous avons en studio Chloé Nastorg. Bonjour.
Bonjour.
Et alors Chloé, vous êtes venue avec Sarah Iboussissène. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interne en médecine. Alors, le sujet du jour, c'est le consentement. Je vous laisse tout de suite la parole.
Oui, donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder plusieurs notions concernant le consentement. Donc, on va tout d'abord commencer par quelques bases du consentement. Et puis, on aimerait parler de sujets un petit peu d'actualité concernant notamment la soumission chimique. On essaiera peut-être un petit peu dériver aussi sur le chemsex, qui est une notion que tout le monde ne connaît pas. Et puis, on n'évitera pas de parler des IST et il sera aussi important de parler de la nouvelle cellule de veille et d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles élargies qui a été mise en place cette année. Tout d'abord, avant de commencer, on aimerait juste dire que nous, en tant qu'étudiants relais santé et rattachés à l'Université de Tours, on ne pourra absolument pas aborder aujourd'hui la situation actuelle de Tours concernant l'université. En effet, il y a beaucoup d'affaires concernant les violences sexistes et sexuelles en France. Là, l'enquête est en cours, donc nous, on ne pourra pas en parler. Mais c'est pour ça qu'en tout cas, aujourd'hui, on aimerait quand même faire des rappels sur le consentement et sur quelques notions qui nous paraissent importantes. Tu veux parler un petit peu du consentement, Sarah ?
Oui.
Je t'en prie.
On voulait parler des bases du
consentement. Bah ouais, on voulait juste rappeler des choses qui sont simples mais importantes.
Oui. Alors, le consentement sexuel doit être l'expression d'un choix libre et volontaire pour toutes les personnes concernées. Et ne pas s'exprimer ou ne pas dire non ne signifie pas donner son consentement. Les personnes inconscientes ou sous l'emprise de l'alcool ou de drogue ne peuvent pas donner leur consentement. Donc c'est en effet à prendre en considération. Et une relation sexuelle n'est pas consentie si elle a lieu sous la contrainte ou la menace. Il y a d'autres situations qui peuvent empêcher une personne de donner son consentement librement. Par exemple, si elle n'a pas la capacité mentale de consentir ou si elle est mineure, par exemple.
Le consentement, c'est aussi quelque chose qui doit absolument être éclairé. Une relation sexuelle, notamment, doit être consentie. N'est pas consentie si l'une des personnes ment ou si elle dissimule délibérément certaines intentions. Par exemple, si on est dans un cas où une personne prévoit un rapport qui n'est pas protégé, si la personne n'a pas prévenu la personne en face, on n'est toujours pas face à quelque chose qui est consenti. C'est pareil, lorsqu'on est face à une personne qui est ivre, celle-ci n'est pas du tout en capacité de consentir, donc c'est pas quelque chose d'éclairé. C'est aussi super important que le consentement ce soit quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que consentir à quelque chose, ça veut pas dire consentir à une autre, donc consentir à un baiser par exemple, c'est pas consentir à un rapport sexuel entier, donc c'est super important de préciser ce à quoi on fait consentir la personne en face de nous, et puis s'il y a un doute, en fait, il est super important de reposer la question si le consentement est toujours présent. Donc c'est pour ça aussi que le consentement, c'est quelque chose de réversible. Donner son consentement une fois, ça ne veut pas dire qu'on l'a donné tout au long d'un acte. Le consentement, il est réversible à tout moment. Si à tout moment on dit non, c'est qu'il n'y a plus de consentement, même si on a dit oui au début. Dernière chose que moi je trouve très importante, le consentement ça doit être quelque chose d'enthousiaste et de participatif. Donc si la personne dit un oui qui est pas très enthousiaste et surtout qui n'est pas participatif, donc qui répond pas à l'autre, c'est pas un oui. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très enthousiaste et de voulu par la personne elle-même. On espère que...
Alors moi j'aimerais juste ajouter quelque chose, peut-être qu'on peut dire aussi que les vêtements c'est pas une forme de consentement.
Exactement.
C'est pas parce qu'on porte telle tenue qu'on dit forcément oui sans le dire. Peut-être qu'on peut ajouter que quand quelqu'un dit non, c'est non.
Tout simplement, oui.
Et puis peut-être aussi de dire qu'il n'y a pas de consentement obligatoire, je pense par exemple aux personnes en couple. Et donc de se dire, bah, c'est pas parce qu'on est en couple que forcément on est consentant ou consentante, et de dire, bah, c'est pas un dû.
Ça, le consentement, c'est vraiment pas quelque chose d'acquis, hein, qu'on soit en couple, qu'on soit dans n'importe quelle relation, même de relation d'amitié sur certaines choses, parce que le consentement, c'est pas que sexuel. C'est toujours révocable et toujours réversible, quoi qu'il arrive. Et comme Elissa l'a dit, un non, c'est un non, et aucune réponse, c'est un non aussi. À partir du moment où on n'a pas un oui enthousiaste, spécifique, libre et éclairé, c'est pas un oui, sachant que tout ce qui concerne le langage corporel, c'est aussi très important. Donc si la personne nous dit oui, mais que tout son corps nous montre que c'est l'inverse, ça s'appelle pas non plus un consentement. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, Sarah, ou...
Non, mais je trouvais que l'idée d'appuyer la question des vêtements, c'était important, ouais, parce que carrément. Évidemment, tout ce qui est décolleté, short, mini-jupe, etc., c'est vraiment quelque chose pour lesquels on peut être vraiment embêté, sollicité dans la rue, et je trouve que c'est important de notifier que, en effet... En fait, ça n'a aucune valeur de consentement, mais voilà, c'est important de l'appuyer, je pense.
Oui, je suis d'accord.
Et puis même de dire aussi bah, pourquoi les femmes ou les hommes, d'ailleurs, mettraient forcément des vêtements pour une sollicitation sexuelle. Pourquoi ce ne serait pas aussi pour se plaire à soi-même, pour se faire plaisir. Et ce n'est pas forcément tourné vers les autres.
Cette tendance à sexualiser directement les vêtements d'une femme... Et même la femme de manière générale, donc oui, effectivement, soit des habits ou même du maquillage ou n'importe quoi, c'est pas un appel, c'est un appel à rien du tout, c'est juste pour se plaire et pour plaire aux autres, et ça veut pas dire qu'on accepte tout en échange, quoi. Si tout ça c'est bon pour tout le monde, on va parler d'un sujet qui nous tient assez à cœur en ce moment. Et qui est quand même un sujet d'actualité, c'est la soumission chimique. Donc la soumission chimique au niveau définition assez stricte, ça symbolise l'administration à des fins criminelles ou délictueuses de substances psychoactives à l'insu de la victime ou sous la menace. Ce qui est super important, c'est de distinguer la soumission chimique de la vulnérabilité chimique. Donc la vulnérabilité chimique, elle désigne le fait d'être en état de fragilité suite à la consommation volontaire de substances psychoactives, ce qui rend la personne vulnérable à un acte délictuel et criminel. Donc voilà, la soumission chimique, de manière générale, c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais qui est quand même en constante augmentation ces dernières années, que ce soit à Tours ou n'importe où. Donc c'est quand même un sujet assez important, et c'est vrai qu'on avait envie de parler un petit peu d'épidémiologie à propos de tout ça, et puis de sensibiliser les étudiants à propos de ce sujet.
Ouais. On va continuer. Il y a une étude de l'ANSM, donc, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, un acronyme un peu long, mais une étude de 2019 a révélé qu'il y avait une augmentation des cas donc de soumission chimique de 16,7% par rapport à 2018. Donc assez important à notifier. En France, pour diagnostiquer une soumission chimique, il faut trois éléments. D'abord, une agression, donc un vol, une agression sexuelle... deuxièmement, une administration donc, de substances psychoactives à l'insu de la victime dont la présence a été démontrée par une analyse toxicologique, ou alors des aveux concernant son utilisation par l'agresseur. Et troisièmement, il faut aussi la concordance entre les données cliniques et la chronologie des faits. Dans chaque cas... Une notion d'imputabilité est recherchée et définie en trois catégories. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Ouais. Donc en fait, quand on parle de soumission chimique, on a trois types de soumission chimique qui vont être évoquées un petit peu de façon judiciaire, on va dire. On a une soumission chimique vraisemblable. Donc ça, c'est le cas où l'agression, elle est documentée. Donc on a un dépôt de plainte, on a un témoignage ou un aveu, une analyse toxicologique qui comprend une substance psychoactive qui a été reconnue dans la littérature et qui ne fait pas partie des traitements de la victime. Et puis aussi, il nous faut une chronologie plutôt favorable. Donc dans ce cas-là, on est dans une soumission chimique vraisemblable. On a aussi la soumission chimique possible. Donc là, c'est lorsque l'agression n'est pas assez documentée, lorsque le dossier présente des éléments favorables à une soumission chimique, mais que les éléments manquent à pouvoir le prouver. En effet, on peut ne pas avoir d'analyse toxicologique, pas de dépôt de plainte, une chronologie qui peut être un peu défavorable. Donc en vrai, c'est un peu le cas qui survient quand même très souvent. Enfin, quand on sort de soirée et qu'on a l'impression d'avoir été drogué, on n'en est jamais vraiment sûr. C'est très rare qu'on aille faire les tests rapidement, et si on n'y va pas rapidement, bah, la substance pourra tout simplement pas être détectée. Donc on est quand même très souvent dans ce cas-là. Et enfin, on a une soumission chimique douteuse, donc l'agression là n'a pas du tout été suffisamment documentée pour être enregistrée par la NSM. Les résultats de l'analyse toxicologique sont négatifs, la plainte est absente, la chronologie est défavorable aussi, puis il n'y a pas de signe externe d'agression. Ça c'est pareil, c'est des situations qui surviennent très souvent, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, au niveau de la loi et au niveau des preuves, on est quand même assez... Enfin, il y a un niveau de preuve assez faible. Et c'est vrai que ça évite d'avancer dans les plaintes et dans la poursuite judiciaire de la personne qui aurait pu faire ça. Sinon, concernant les substances psychoactives qui sont principalement utilisées donc en soumission chimique, on a principalement de la MDMA, du GHB, de l'alcool aussi. On parle aussi de soumission chimique lorsqu'on utilise de l'alcool. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, à Tours, comme en France, il y a vraiment eu ces derniers mois une très forte augmentation des cas. Je pense que vous avez pu entendre ça un peu partout, que ce soit dans les verres, dans les bars, dans les boîtes concernant le GHB ou n'importe quelle drogue qu'on peut administrer dans un verre, mais aussi récemment l'administration et la soumission chimique par les seringues directement. Donc tous les cas qui ont pu être relatés dernièrement nous montrent que c'est quand même en forte augmentation et que c'est quelque chose pour lequel il faut parler et être sensibilisé, même si on aimerait que ce soit pas nous qui faisions attention et que ce soit les personnes qui soient éduquées. Malheureusement, c'est quand même important d'être sensibilisé à ça. C'est pour ça d'ailleurs que la mairie de Tours a réagi un petit peu en fournissant pas mal de protections de verre. Donc on a des cup condoms par exemple au SSU. On en fournit, et puis il y a beaucoup d'endroits aussi où ils en fournissent. Donc moi je trouve que c'est vraiment bien de s'en approprier. Après, c'est pas toujours facile, hein. Enfin, moi-même, des fois je vais en soirée et je l'ai pas, et c'est pas toujours facile, mais si on peut le faire, ce qui est très important aussi à mon goût, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est d'être, quand on va en soirée, d'être très bien entouré, donc d'être avec ses amis. Si on a un doute sur quelque chose, demander à nos amis de nous surveiller et d'être là, ça c'est sûrement aussi le plus important.
On peut ajouter aussi que justement sur le fait d'être bien entouré, on peut penser au trajet retour. Voilà, c'est pas toujours une bonne idée, voire c'est rarement une bonne idée de rentrer toute seule. Et je signale qu'il existe une application de copier-tonnage faite par des étudiantes justement de l'UT de Tours qui s'appelle Woomi, je crois.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous voulez peut-être nous en dire plus ? Comment ça marche cette application
Moi, je possède pas trop cette application. J'avoue que, enfin, je suis en médecine et tous mes amis habitent à côté de chez moi, donc c'est vrai que je rentre jamais seule. Mais pour le coup, j'en ai entendu vraiment que du bien. Je suis leur compte Insta et c'est vrai que elles sont à fond là-dedans, les filles. Et, franchement, même sur des groupes, parfois même sur Facebook, on a des groupes aussi pour pas rentrer seule, et c'est vraiment super important. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, je me vois absolument plus rentrer seule. Pourtant, j'habite à 5 minutes en vélo de Plume, mais je me vois absolument pas rentrer seule vu le nombre de choses qui peut arriver, et puis même je me sentirais tout simplement pas rassurée. Donc ouais, c'est super important de pas rentrer seule, de prévoir son trajet retour. Et
ouais, moi ça, j'avoue que ça me consterne un peu, ça me rend triste même de se dire que les jeunes femmes ont peur, peuvent avoir peur de, ou pourraient avoir peur de sortir, parce que en se disant je sais pas ce qui peut m'arriver. Et en fait, de se dire que tout ce qui arrive en ce moment, ça pourrait, en tout cas, décourager certaines d'aller voir des amis, de sortir, de s'amuser. Ouais, je trouve ça assez triste. C'est pour ça que j'insiste sur ce genre d'application. De se dire qu'il y a des façons aussi de ne pas céder à cette peur-là. Parce qu'une fois qu'on commence à avoir peur, c'est difficile de ressortir.
Moi, je voudrais juste insister sur le fait que ce soit une réelle charge mentale, que en fait une charge mentale que donc les femmes ont, que les hommes n'ont pas. Et c'est vrai que quand on discute avec d'autres étudiants de sexe masculin, c'est vrai qu'ils ne se doutent même pas de la charge mentale que c'est. Je trouve que c'est un peu c'est assez marrant de discuter avec eux et de se rendre compte que eux, c'est léger, en fait, partir en soirée, c'est léger, et il n'y a pas de prise de tête sur le retour ou sur avoir une application. Et c'est vrai que en parler, je trouve, avec eux, c'est aussi important, parce que je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de l'ampleur de ce que c'est que de devoir penser à tout ça en amont, pendant, et même après, pour être sûr que nos copines ou nos potes, elles sont bien rentrées, quoi. Enfin, et je trouve que ouais, c'est important de se rendre compte de ça.
Mais si on en revient aux habits, de se dire même... d'anticiper sur attention, si je mets tel vêtement, peut-être que je vais me faire embêter. Et puis de dire aussi attention aux clichés, de dire bah non, mais de toute façon, les filles qui se font embêter, c'est que les filles très belles qui sont habillées comme ça. Mm. Bah non. Et donc voilà, de se dire, je pense que toutes les femmes ont besoin de soutien, et du coup de ne pas entrer dans des clichés de telle personne serait forcément agressée et telle autre non.
Mm. C'est clair.
Oui, c'est clair, hein. C'est super important de les sensibiliser à ça aussi. Enfin, je sais que moi, mes amis, ça va, j'ai de la chance, genre, ils s'inquiètent à chaque fois que je rentre en sécurité, ils sont toujours, toujours là pour me raccompagner, mais c'est pas toujours le cas, et puis on n'ose pas toujours demander aussi, c'est pas toujours facile. Enfin, des fois, on a envie de rentrer, et la personne qui est censée nous raccompagner n'a pas envie de rentrer, enfin, ça va super vite, quoi. Il suffit d'avoir un peu d'alcool dans le sang et de dire, oh, bah non, mais c'est bon, je peux rentrer, ça va aller, quoi. Mais ça se passe malheureusement pas comme ça dans la vraie vie. Donc, ouais. Après, juste pour revenir à la soumission chimique, il y a quand même pas mal... Enfin, là, en tout cas, dernièrement, il y a quand même pas mal d'hommes aussi qui se font droguer, soumettre chimiquement. Parce que, apparemment, il n'y a pas forcément une volonté de... Bon, peut-être que la volonté première, c'est de violer aussi, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui soumettent chimiquement aussi pour des raisons un peu inconnues. Et, enfin... Finalement, autour de moi, j'ai eu beaucoup de garçons aussi qui se sont fait droguer, que ce soit dans leur verre ou à la seringue. Bon, ça n'a pas négligé aussi, mais c'est vrai que ça paraît beaucoup plus risqué pour... Voilà. Après, il y a quand même eu... Enfin, c'est ce qu'on a marqué là, ici, mais il y a quand même eu quelques réactions au niveau national avec un plan de sensibilisation et de prévention. On a notamment pas mal d'affiches orange avec un QR code où il y a marqué, il me semble, droguer malgré toi, qui permettent en fait d'accéder à un service gratuit et anonyme de chat pour les victimes. Donc on a des discussions avec des policiers ou des gendarmes qui sont mis en place, et puis la volonté aussi de rendre systématique les prélèvements toxicologiques de la victime et les prélèvements ADN sur les vêtements sur les vêtements des victimes. Mais bon, encore une fois, ça, c'est des choses qui mettent du temps à avancer, on espère que ça change plus. Mais bon, le fait déjà d'en parler de plus en plus autour de nous, espérons que ça fasse avancer les choses. Et juste judiciairement, un truc qui nous paraît très important aussi, juste pour rappel, le fait d'administrer ou tenter d'administrer à son insu à une personne une substance de nature qui va altérer son discernement et le contrôle de ses actes, pour commettre un viol ou une agression sexuelle, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
On peut ajouter aussi que, les agressions verbales dans la rue aussi, c'est puni. Donc insulter une femme dans la rue, y a une peine aussi.
C'est puni aussi.
Voilà, donc même se montrer lourd, on va dire, en soirée, coller quelqu'un, l'insulter, c'est aussi... on peut porter plainte.
Et pas normal. Enfin, on peut se dire que c'est quelque chose de normal, surtout. Parler, c'est pas toujours facile, mais si on s'en sent le courage, il peut y avoir des suites à tout ça. Et oui, on avait aussi évoqué qu'on voulait recommander le compte Instagram Balance ton bar tour. Bon, après, ça a une valeur assez subjective, mais un compte Insta qui relate les différents bars où il y a pu avoir des des soumissions chimiques. Parce que parfois, alors parfois les bars sont très engagés et c'est pas de leur faute. On a tout simplement une personne qui était à ce bar qui a soumis chimiquement un des clients, mais le bar n'est pas forcément responsable. Mais il y a aussi des bars, malheureusement, où les personnes qui soumettent chimiquement sont les barmanes et sont encore engagées et sont encore en train de travailler dans le bar. Donc, si ce contexte-là qui peut aider un petit peu.
Et si d'aventure une étudiante ou un étudiant écoute cette émission et se dit voilà, qu'il ou elle a été victime d'une agression, mais qu'il n'ose pas aller porter plainte parce que ça peut faire peur aussi. On me dit, mais on ne va pas me croire, on va se moquer de moi. Est-ce que dans un tel cas, on peut contacter le SSU pour demander un accompagnement ou de l'aide?
Ah oui, bien sûr, le SSU, c'est fait pour ça. On a déjà des médecins, des psychologues, des assistantes sociales à qui vous pouvez venir parler n'importe quand à partir du moment où vous êtes étudiant à l'université de Tours. Il faut juste une carte vitale et sa carte étudiante tout simplement, et puis vous pourrez avoir un rendez-vous très simplement en prenant rendez-vous soit sur le site internet, soit en appelant, et vous faire aider. Enfin, quoi qu'il arrive, le SSU, en fait, ils sont là pour les étudiants, que ce soit pour n'importe quelle situation, pour les prendre en charge directement ou pour les rediriger vers des professionnels encore plus compétents. Donc oui, totalement. Enfin, c'est justement là où on voulait en venir aussi, c'est que le SSU est là pour ça aussi. Et que ce soit juste pour en parler ou pour vous aider.
Je voulais juste ajouter pour le compte Instagram Balance ton bar. Le but, c'était pas forcément de se dire « Ah, tel bar, il est pas bien » ou « Ils font pas les choses correctement », etc. Mais aussi de se dire... Enfin, moi, je suis allée sur le compte Instagram de se dire « Bah, ça peut vraiment être n'importe où, à n'importe quel moment. Alors, on va pas... être constamment flippé et plus sortir, mais juste se dire bah en fait parfois c'est le bar peut être en cause, mais parfois pas du tout, mais je veux dire ça peut arriver n'importe où, et c'est un peu intéressant d'avoir des retours sur ce qui a pu se passer, les déroulés de l'agression, histoire d'avoir une idée de comment ensuite on peut, en tout cas ça peut donner une idée de comment on peut relayer ce genre d'informations. Et je trouve que c'était c'est pas tellement pour accuser mais vraiment pour ensuite être informé, quoi.
C'est vrai qu'il y a des choses, on a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres et pas ici, pas nous. On habite toujours dans d'autres villes alors que heureusement non. Et oui, je suis d'accord, c'est pas du tout un compte de dénonciation, c'est un compte très bienveillant, mais de se rendre compte un petit peu aussi, et de pouvoir partager aussi sur les réseaux sociaux, sensibiliser un petit peu les personnes et se rendre compte que c'est partout autour de nous. Enfin, je pense que sincèrement, on doit tous connaître ou avoir vécu des situations où quelqu'un était drogué dans un bar. Où... C'est quand même vraiment très fréquent et de plus en plus. Donc c'est important d'être sensibilisé et de pouvoir accompagner, de pouvoir être là aussi pour ses amis.
Alors je vous propose de faire une pause musicale dans cette émission avant de reprendre le fil de la discussion. Alors peut-être un peu de pédagogie avant de lancer Queen Latifah. On va répéter que non, la victime n'est jamais responsable de son agression. Voilà, c'est l'agresseur qui est responsable. Ça semble évident, mais malheureusement je crois que c'est toujours bon de le répéter. Alors une pause musicale dans la Méridienne et on se retrouve tout de suite après.
Brother, call a girl a bitch or a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I
bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me, bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break the fly. I punched him dead in his eyes. Said,
who you calling me, bitch?
You and I, G-Y.
I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice to the tool, I'm not taking it no more. I'm not your personal whore, that's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you, do you do right by me? Brother, you wait and sit in the bitch.
You and I.
Queen Latifah dans la Méridienne, vous écoutez Radio Campus Tour et je repasse la parole à mes deux invités, Chloé Nastorg et Sarah Ibou-Hissen, c'est à vous.
Alors là on va reprendre sur un tout autre sujet, pour rappel tout à l'heure donc, on a parlé de la soumission chimique qui est donc une, un acte d'agression où la personne... L'agressé est, ne consentit pas, évidemment. En revanche, là, on voulait parler du chemsex, où là, les relations sexuelles sont faites de manière consentie. Donc, on trouvait important quand même de notifier ça au début. Et en fait, le chemsex, c'est assez peu connu. Mais en fait, c'est un usage de substances psychoactives avant ou pendant... les relations sexuelles, mais donc de manière consentie, et on voulait faire un point dessus. En fait, l'objectif de cette pratique, c'est d'initier, de prolonger, de maintenir ou d'intensifier l'activité sexuelle, la performance et le plaisir aussi. Et c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps, mais qui est étudié en France que depuis une dizaine d'années. On a peu de chiffres encore sur la pratique, mais il y aurait une estimation de environ 100 000 à 200 000 usagers en France. Et on retrouve des substances psychoactives comme le poppers, le GBL, GHB, les catinones, des drogues qui sont des drogues de synthèse, la cocaïne, la MDMA ecstasy, la kétamine, les méthamphétamines et le Viagra. Dans les risques qu'on a pu... parce que donc cette pratique comporte des risques. Peut-être que Chloé, elle va nous en parler.
En fait, évidemment, le chemsex, donc, même si on a évoqué que c'était quelque chose de consenti, c'est quand même une pratique à risque. On peut évidemment noter l'émergence du SLAM. Donc, le SLAM, c'est une injection répétée de substances psychoactives au cours d'actes sexuels. Et en fait, ça peut induire énormément d'infections et de transmission, donc d'infections sexuellement transmissibles. Donc voilà, ça va vraiment être ça le principal risque. Je trouve qu'il faut aussi noter que, étant donné que les personnes donc, sont sous l'influence de substances psychoactives, le consentement peut quand même aussi être mis en cause parfois, je pense. Donc, c'est quand même un risque aussi du chemsex, même si on a dit que de base, l'action a été consentie. Encore une fois, si le consentement n'est pas redemandé, je rappelle que ça peut devenir quelque chose de non consenti. Donc pour moi, ça fait aussi partie des risques. Mais c'est vrai que le principal risque, ça va quand même être les infections sexuellement transmissibles. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, du coup, à consulter, par exemple, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et surtout, se faire dépister souvent. Déjà que quand on ne pratique pas le chemsex, je vous rappelle que c'est super important de se faire dépister le plus souvent possible, sachant que c'est quelque chose que vous pouvez faire au SSU. En effet, une fois par semaine, il y a un créneau au SSU qui permet de se faire dépister. Donc, il y a une semaine où c'est le mardi et une semaine où c'est le vendredi. Voilà. Sachant que aussi toute l'année, avec les étudiants relais santé et le SSU, on met en place donc des dépistages un petit peu de masse dans les différentes universités où il n'y a même pas besoin de prise de rendez-vous pour se faire dépister. Voilà, on peut aussi se faire dépister au Cégide et puis vous pouvez évidemment aussi vous faire dépister sous prescription de votre médecin traitant. Mais voilà, en tout cas pour le chemsex, c'est vrai que les IST c'est quand même un risque majeur. Donc cette pratique est quand même une pratique à risque. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le chemsex? On voulait juste y passer assez rapidement. Après, si Mélissa, tu as quelque chose à dire?
En fait, je pense que c'est peut-être important de rappeler que le SSU, évidemment, n'est pas dans le jugement. Et que voilà, si des personnes nous écoutent et ont cette pratique-là, vous êtes tout à fait invités à aller au SSU si vous avez des questions ou vous souhaitez faire un dépistage, puisque évidemment, l'idée, c'est pas de dire aux gens que c'est mal ou quoi que ce soit sur leur pratique. Enfin, je suppose. Après, peut-être, je me demandais si cette pratique de chemsex était plus pratiquée par certaines personnes que par d'autres.
Oui, de base, c'est vrai que cette pratique a quand même plutôt émergé dans la population gay, et notamment, principalement, d'homme à homme. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui s'étend même dans la population hétérosexuelle et entre les femmes aussi. Mais c'est vrai que, de base, c'était quand même quelque chose qui concernait plus les relations entre hommes. Mais voilà, c'est pas à négliger, c'est pas quelque chose, moi je pense qu'il faut genrer et catégoriser, c'est super important de dire que déjà tout le monde a le droit de le faire, enfin il n'y a pas de genre à associer à cette pratique. Puis c'est pas parce qu'on est hétéro qu'on fait cette pratique et qu'on doit pas se faire dépister, enfin bon, tout le monde doit faire attention de la même façon.
D'ailleurs, puisque vous mentionniez le Cégide, peut-être que pour les personnes qui ont cette pratique et qui ont peut-être plusieurs partenaires, on peut parler de la PrEP. Est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant à mentionner?
Oui, carrément. Je peux même en parler mieux que moi, mais...
Oui, alors la PrEP, c'est une administration en fait, d'antirétroviraux... Qui se fait pas forcément quand on a le VIH, mais aussi quand on l'a pas et qu'on a des pratiques sexuelles avec des gens qui potentiellement l'ont. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une administration donc, de médicaments qui permettront d'éviter de contracter le VIH, même si on a des relations avec des gens qui l'ont. Donc voilà.
C'est de la prévention en fait, c'est quelque chose dont il faut absolument pas avoir honte de prendre la PrEP, c'est pas une honte, enfin prendre soin de sa santé, c'est pas une honte, et surtout faire de la prévention vis-à-vis de sa santé, c'est super important. On a la chance aujourd'hui d'avoir une évolution notable quand même sur les IST, et notamment sur le sida, et la PrEP, c'est quand même quelque chose d'incroyable, moi, je trouve.
Mmh. Oui, oui. Et c'est vrai que ça a permis de quand même libérer pas mal de personnes qui ont des pratiques sexuelles avec des gens qui potentiellement pourraient avoir le VIH. Donc c'est vrai que ça a permis quand même une avancée sur ce plan-là. Mm.
Et juste pour revenir sur le CAMSEX et le SSU, il faut savoir que beaucoup de professionnels du SSU sont formés et connaissent le CAMSEX. Donc encore une fois, ils n'auront absolument aucun jugement et vous comprendront... sans jugement, quoi qu'il arrive. Donc, n'hésitez surtout pas. Et
la PrEP, je l'ai pas dit, mais c'est important quand même de... En fait, l'idée, c'est quand même d'aller voir un médecin qui va ensuite prescrire les médicaments. Donc, au SSU, au moins, vous pourrez être orienté vers des médecins qui prescrivent ce genre de médicaments. Donc, si jamais vous avez des doutes... n'hésitez pas à demander au SSU, mais donc voilà, éventuellement d'être suivi par un médecin. Encore une fois, ce médecin ne portera pas de jugement sur vos pratiques. L'idée, c'est vraiment juste de prendre soin de vous, quoi.
Et des autres.
Et les autres.
À noter que la PrEP, c'est pas que dans le cas du CAMSEX, évidemment. Enfin, si vous sentez que vous avez beaucoup de pratiques à risque, que ça pourrait être utile pour vous protéger, vous et les autres, comme on l'a dit, PrEP, c'est sûrement la bonne solution. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, parce que c'est quand même pas facile de savoir beaucoup de choses sur tout ça. Donc juste prendre des rendez-vous, en parler à votre médecin ou à un médecin du SSU ou du CEGID, proposer et voir ce qu'il en pense, ça coûte rien. Voilà, donc après sur le CAMSEX, on n'avait pas forcément grand chose à rajouter. On voulait quand même surtout faire le parallèle avec la soumission chimique, donc entre le consentement et le non-consentement de la soumission chimique. Et puis bah, on voulait surtout amener un petit peu de manière générale aux infections sexuellement transmissibles et un peu à la recrudescence de celles-ci ces dernières années, même si on a l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. Ça augmente toujours et c'est pour ça que c'est encore une fois très important de se faire dépister. En effet, si on parle un petit peu d'épidémiologie, la classe d'âge la plus concernée par les IST, donc c'est celle des 15-24 ans. Donc, les étudiants sont concernés du coup. En 2017, en effet, il y a vraiment une augmentation importante du nombre d'infections à gonocoque, par exemple, de 70% par rapport à 2015, et pour la chlamydia de 15%. On est quand même sur des augmentations assez importantes. C'est vrai qu'on est en 2022, on a l'impression que le sida, ça n'existe plus, que les IST, ça n'existe plus, mais ce n'est pas vrai. Il y a encore une sensibilisation importante à faire, et pourtant, on a quand même beaucoup d'avancées qui nous permettent d'éviter toutes ces infections. Voilà, en effet, on observe un recul de la prévention et de la sensibilisation sur le VIH depuis quelques années. Voilà. Je veux donner un petit peu les chiffres.
Oui. Alors, seulement 34% des personnes qui sont interrogées. Donc, alors, il y a eu un sondage de fait par l'IFOP en 2022, donc très récent. Et seulement 34% des personnes qui ont été interrogées déclarent avoir utilisé systématiquement un préservatif pendant un rapport sexuel. Donc, ça fait moins 14 points par rapport à 2020. Donc, c'est quand même un petit pourcentage. 29% considèrent avoir moins de risques que les autres d'être contaminés. Et 23% des 15 à 24 ans pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive.
Il y a encore pas mal du coup aussi de préjugés. Hein.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça fait, encore une fois, ça fait quand même pas mal de personnes qui ont visiblement été peu informées à ce sujet-là. Et 31% des jeunes interrogés estiment être mal informés sur le VIH ou le sida. Et c'est vrai que je pense que on en parle peut-être visiblement pas assez. Et moins d'un jeune sur deux s'estime bien informé sur les lieux où aller se faire dépister pour le test du VIH. Donc là, encore une fois, c'est vrai qu'au SSU, il y a des infirmiers, gynécologues et médecins spécialisés en santé sexuelle. Donc c'est important, alors déjà de faire des actions collectives, mais aussi à l'échelle individuelle, pas hésiter à s'informer aussi par soi-même.
Sachant qu'on rappelle que les ST peuvent se transmettre pas seulement par la pénétration, mais par tout acte sexuel, donc c'est hyper important de se protéger. C'est vrai que j'ai l'impression que dans notre génération, il y a vraiment une vision très mauvaise des préservatifs, notamment, alors qu'on a la chance que ça existe. Et c'est dommage parce que y a beaucoup de types de préservatifs. Il faut aussi se renseigner et savoir peut-être choisir son préservatif. Ça enfin, c'est autre chose, mais choisir son moyen de se protéger. Il y a beaucoup, je pense, de préjugés et de personnes qui n'utilisent pas forcément bien, alors que ça peut aussi très bien se passer avec un préservatif qui est adapté. Aux deux partenaires. Donc voilà, c'est important de se protéger et si c'est pas le cas, de se faire dépister tout simplement, de dépister les deux partenaires et d'avoir une relation de confiance vis-à-vis de tout ça parce que c'est sa santé et celle des autres aussi qui est mise en jeu. Voilà, on vous invite tout simplement à vous protéger et à se faire dépister aussi. Enfin, c'est vrai que moi je trouve que c'était pas... c'est pas très difficile d'obtenir une ordonnance pour son médecin, mais par exemple quand on habite dans une ville où on est étudiant, on peut être très loin de son médecin traitant et c'est pas forcément facile. Le CIGIT c'est bien, mais bon, il faut attendre aussi pas mal de semaines pour se faire dépister, il y a du monde, mais le SSU très franchement c'est facile, on peut vraiment simplement prendre un rendez-vous sur le site internet. Généralement il y a de la place d'une semaine à l'autre et on peut se faire dépister assez facilement et ça coûte franchement rien de le faire. Donc dès que vous avez un doute, il faut le faire. Et puis même quand vous n'avez pas de doute, conseille quand même de se faire dépister minimum une fois par an. Donc,
voilà. C'est un prélèvement qui se fait de manière assez facile, qu'on peut faire sur place, qui est un prélèvement vaginal ou rectal, et c'est vrai que et buccal aussi. Voilà, c'est quand même assez rapide. Comment ? Et prise de sang aussi. Voilà, le laboratoire est juste à côté. C'est les infirmières du SSU qui font les dépistages et ça prend peu de temps ça vaut le coup.
On rappelle aussi qu'il y a le secret médical. Donc, même si les gens qui hésitent parce qu'ils ont peur ou honte qu'on révèle leurs intentions de visite, ça n'arrive pas.
Bien sûr.
C'est super important. Hein, tout le SSU, comme n'importe quel professionnel médical, est gardé du secret médical. Et puis personne ne vous jugera si vous venez parce que vous avez un rapport à risque. C'est aussi le but du dépistage. Donc il ne faut vraiment pas avoir honte de tout ça et surtout pas avoir honte de se tourner vers le SSU qui n'est formé que de personnes très bienveillantes qui ne vous jugeront pas. Comme au CIGIT et comme on aimerait que ce le soit partout, évidemment. Mais en tout cas, soyez rassurés quant au SSU vis-à-vis du dépistage. Bon, voilà, après, je ne sais pas si vous avez toutes les deux quelque chose à rajouter sur les...
Peut-être juste un petit mot sur la contraception. Ouais. Parce que on a l'impression qu'on est protégé avec la contraception, oui, on risque, en tout cas pour les femmes, pour l'instant il n'y a pas de contraception masculine pour les hommes officielle et légitime pour l'instant, mais on espère bientôt que ce soit le cas. Mais en tout cas la contraception féminine par les pilules ou les implants ou les stérilés protège contre le fait d'avoir un enfant, mais de tomber enceinte, mais évidemment pas contre les IST. Je pense que c'est important à noter parce qu'on a l'impression d'être protégé de tout et on oublie un peu la base parfois. Donc voilà.
Sachant qu'encore une fois, pareil, ouais, c'est possible d'avoir des consultations de gynécologie pour les contraceptions aussi, d'ailleurs, quel que soit votre genre. Donc voilà, ça c'est super important à prendre en compte aussi. Oui, t'as raison de soulever que c'est pas parce qu'on prend la pilule qu'on est protégé contre les IST. Et voilà, il s'agit de... C'est un choix qui est fait par rapport à vous. Hein, c'est pareil, la contraception, la pilule, ça convient pas à tout le monde. Et il y a toutes sortes de contraceptions qui vous permettront d'être plus à l'aise dans votre vie quotidienne ainsi que dans votre sexualité. Donc voilà, c'est des choses avec lesquelles il faut réfléchir soi-même et surtout discuter avec des professionnels de santé qui pourront vous orienter vers la meilleure contraception et la meilleure façon de vous protéger des IST.
Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues dans La Méridienne. Alors peut-être avez-vous, pour terminer cette émission, des ressources en ligne que vous aimeriez partager avec nos auditeurs. Ça peut être par exemple des sites internet où s'informer, des comptes Instagram ou tout autre support qui vous semble intéressant, des podcasts, que sais-je.
Moi, j'ai des podcasts à conseiller. Le nom des podcasts... en tout cas, les podcasts que je vais conseiller rassemblent tout un tas de sujets et pas que le consentement. Mais il y a évidemment des podcasts qui s'intéressent juste au consentement d'autant. Je conseillerais bien un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur RT Radio. Un autre podcast de Charlotte Pudowski. Il y a les couilles sur la table. Oui, non, c'est Victoire Tuaillon, pardon. Victoire Tuaillon avec les couilles sur la table et le cœur sur la table. Elle en a fait un deuxième. Donc je sais qu'il y a un très très bon épisode sur le consentement et qui prend aussi l'angle de vue masculin. Voilà. Et moi, ça sera mes conseils.
Pour le coup, le cœur sur la table, c'est sympathique. Et aussi. Globalement, c'est vrai que c'est pas forcément en lien avec tous les sujets dont on a parlé, mais c'est quelque chose de très global qui parle des relations de manière générale et qui déconstruit beaucoup de choses. Et c'est un podcast très très prenant, même je trouve au niveau musical, au niveau des sons, au niveau de beaucoup de choses qui abordent des sujets vraiment, vraiment hyper importants. Mais c'est vrai que j'écoute pas tellement de podcasts sur tout ce qui concerne les IST, le CAMSEC, la soumission.
Oui, alors, oui. Là, c'était vraiment sur le consentement et c'était pas vraiment sur les IST, etc., ou le CAMSEX.
Oui,
Ouais.
Voilà, et bien merci à vous. On manquera pas de mettre les liens vers ces podcasts dans le podcast de cette émission qui sera à retrouver sur notre site radiocampustour.com. Et cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h sur le 99.5 FM. Il me reste à vous remercier Chloé Nastorg, étudiante relais santé, et Sarah Ibouissen, interne en médecine. Merci à toutes les deux. Voilà, je vous souhaite la meilleure journée possible à l'écoute de nos excellents programmes, en toute modestie. Et on va se quitter avec un peu de musique. On va écouter Zora Badala Zamana. J'adore cette chanson. J'ai déjà mise la semaine dernière, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Alors, on écoute cette musique. Et voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée.